Radio Kapi.
Le journal Dona Madimba à la présentation.
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre session d'information sur Radio Kapi. Voici les titres. Lentement mais sûrement, le processus de paix de la République démocratique du Congo, dans lequel est impliqué aussi le Rwanda, avance malgré les défis sécuritaires et politiques persistants. Les deux pays se sont retrouvés il y a deux jours à Washington, aux États-Unis. Les facilitateurs ont renouvelé leur soutien à ce processus et un appel à la retenue a été lancé sur terrain, sur place, à l'est de la République démocratique du Congo. Deux tristes anniversaires à signaler dans ce journal. 11 ans des tueries de Oicha dans le territoire de Beni par les ZDF et le naufrage du MV Merdi à Goma il y a un an déjà. À toutes ces deux occasions, de nombreuses vies ont été fauchées. À quelques semaines du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, le programme élargi de vaccination intensifie ses préparatifs. Une médecin impliquée dans ce rendez-vous nous dit tout dans un instant. Bienvenue une nouvelle fois dans cette édition du journal. Processus de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce processus avance lentement mais sûrement malgré les défis sécuritaires et politiques persistants. Dans une déclaration conjointe publiée hier par le département d'État américain, la RDC et le Rwanda, avec le soutien des États-Unis, du Qatar, du Togo et de la Commission de l'Union africaine, ont présenté les décisions de la troisième réunion du comité mixte de surveillance de l'accord de paix de juin 2025 tenu mercredi à Washington aux États-Unis. Cette rencontre marque une nouvelle étape pour la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre les deux pays en juin dernier. Martial Papimukeba.
Selon les communiqués, les participants ont reconnu les obstacles persistants à la mise en œuvre de l'accord, notamment la neutralisation des FDLR et de leurs affiliés, ainsi que la levée des mesures défensives par les Rwanda. La RDC et les Rwanda ont finalisé l'ordre d'opération proposé par les mécanismes conjoints de coordination de la sécurité, entré en vigueur le 1er octobre. Le comité a aussi souligné l'importance de l'accès du CICR à tous les détenus et les deux pays se sont engagés à les faciliter. Les membres ont insisté sur la nécessité de soutenir l'accord en parole et en acte, en évitant tout langage ou comportement hostile. Face aux tensions récentes à Uvira, au Sud Kivu et Walikale, au Nord Kivu, un appel à la retenue a été lancé à tous les acteurs. Le Qatar a présenté l'état des pourparlers de Doha entre la RDC et l'AFC M23, salua l'accord sur l'échange des prisonniers et la reprise des négociations prévues la semaine d'ici octobre. Le comité a réaffirmé son soutien à ces processus jugés essentiels pour l'application plus large de l'accord. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province de l'Ituri, l'activisme des groupes armés dans le territoire de Djougou continue d'aggraver la crise humanitaire. Des milliers de déplacés vivent dans une grande vulnérabilité. Après l'attaque de la milice Codeco hier à Lowi, l'acheminement de vivres vers le site d'Oro a été suspendu. Plusieurs villages restent aussi inaccessibles aux humanitaires. Les notables appellent les miliciens à déposer les armes. Isaac Remo.
Depuis des jours, les humanitaires distribuaient des vivres aux déplacés du site d'Héro qui abrite près de 20 000 personnes. Mais cette opération a été suspendue après l'attaque de la milice Codeco hier à Loui qui a fait une dizaine de morts. Parmi les victimes, des déplacés tués alors qu'ils se rendaient au champ à Mazé, situé à 3 km du lieu du drame. La présence de ces hommes armés empêche les déplacés, mais aussi les habitants des villages voisins, d'accéder à leur champ. Une situation qui accentue la vulnérabilité d'une population déjà appauvrie par la guerre, alerte la civile locale. Son président Charité Banza appelle les FARDC à accentuer la pression sur les groupes armés, en particulier la CODECO, pour rétablir la paix et faciliter l'accès des humanitaires dans les entités dans les territoires des Djougou.
Ce qui attaque beaucoup les milieux, les territoires, c'est seulement le groupe armé CODECO. Il y a de façon là, mais les de face là, on a demandé de déposer les armes. Ils ont déposé les armes. Il faut que la CODECO a provoqué et tué. C'est parce qu'il y aura du calme qui va entrer.
La province de l'Ituri compte aujourd'hui plus d'1 500 000 déplacés vivant dans une extrême précarité à cause de l'insécurité persistante et de l'insuffisance des moyens humanitaires. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Province du Nord Kivu, encore, cette fois à Beni. La population a marqué jeudi dernier un triste anniversaire. 11 ans depuis le début des tueries attribuées aux rebelles de ZDF à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni, des scientifiques, les acteurs de la société civile, mais aussi les responsables de services de sécurité, ont organisé un échange citoyen pour réfléchir aux causes de la persistance de l'insécurité dans la région. Ils ont lancé un appel pressant au gouvernement afin de revoir ses stratégies de protection des civils. Marc Marofimbo.
Lors de cette conférence, les facilitateurs ont rappelé que les massacres attribués aux ZDF avaient commencé le 2 octobre 2014 avec la mort de 2 civils dans la localité de Mukoko, à une quarantaine de kilomètres au nord de la ville de Beni. Depuis, au moins 10 000 civils ont été tués par ces rebelles, des villages parfois entiers vidés de leurs habitants, laissant derrière eux une population fragilisée et traumatisée. Les participants recommandent au gouvernement de revoir sa stratégie de sécurisation des civils, mais aussi d'exonérer cette communauté meurtrie de toute charge fiscale. Témoignage de Simon Mavunga, activiste des droits humains et participant à cet échange.
Depuis tout ce temps-là, l'activisme des ZDF continue. Il continue à endeuiller nos populations et il n'y a aucune stratégie militaire pour mettre cet ennemi hors l'état de nuire. Et que donc, nous sommes en train d'interpeller les autorités qui se chargent de la sécurité des populations, qu'ils puissent encore renforcer surtout leur stratégie dans le cadre de sécuriser les populations. Le gouvernement congolais doit arrêter à continuer à percevoir des obligations fiscales sur ces populations longtemps meurtrie par le massacre et il n'y a aucune mesure stratégique pour mettre hors de terre et nuire l'ennemi.
Un message fort qui résonne comme un nouvel appel au gouvernement pour qu'enfin les populations de Beni retrouvent la paix. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Un autre triste anniversaire dans la même province dans ce journal. Il s'agit du naufrage du bateau MV Merdi au Nord Kivu. Les habitants de la ville de Goma se rappellent encore ce drame survenu le 3 octobre il y a une année sur le lac Kivu. Un accident qui avait coûté la vie à plusieurs personnes et fait plusieurs disparus ainsi que de pertes en marchandises. L'épave du bateau est toujours au fond des eaux à quelques encablures du port des Kituku au quartier Kieshero. Une année après, il semble qu'aucune leçon n'a été tirée de cet accident puisque les mêmes risques persistent. C'est aussi l'avis d'Alex Kalwira, coordonnateur de la structure dénommée Unité de surveillance et de sauvetage qui forme les sauveteurs à Goma. Suivons un extrait de son intervention.
Ce jour-là, le bateau Merdi a emporté avec lui des dizaines de vies innocentes, des familles endeuillées, des corps jamais retrouvés, des survivants traumatisés. Ce n'était pas un simple accident, c'était un symbole du laxisme en matière de sécurité aquatique, du manque d'encadrement et de formation. Donc un an plus tard, rien n'a vraiment changé, les mêmes risques persistent. Surcharge, absence de gilets de sauvetage, embarcation non inspectée et absence de sauveteurs formés. Les silences et l'oubli ne doivent pas devenir notre norme. Face à cela, l'organisation que je coordonne, dénommée Unité nationale de surveillance et de sauvetage, propose une réponse concrète à travers son projet Nager et Sauver. Ce que nous voulons faire, c'est sensibiliser les communautés riveraines au risque de noyade, former la majorité de la population, les jeunes et les enfants, à la natation et aux gestes des premiers secours. Donc à travers la mémoire de ces victimes du bateau Merdi, mais également d'autres victimes sur les fleuves, sur d'autres lacs, nous appelons les décideurs, les partenaires et les citoyens à agir pour qu'aucune autre embarcation ne devienne un cercueil flottant.
De l'économie dans ce journal, depuis quelques jours, l'on assiste à l'appréciation du franc congolais par rapport au dollar américain. Et hier, l'équipe du ministre de l'économie a fait la ronde de certains marchés quinois et a fait le constat de la baisse des prix de certains produits de consommation courante, conséquence directe de l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Cette tendance touche plusieurs produits essentiels, sucre, maïs, haricots, sel, ciment, lait, huile végétale, semoule, cossette de manioc, mais aussi de la tomate. Blaise Makassi.
Au rond Pouingaba comme au marché Zigida, point névralgique du commerce populaire, le prix de certains produits ont chuté de manière visible. Le sac de maïs de 50 kilos est passé de 200 000 francs congolais à 170 000 francs congolais, indiquent des commerçants rencontrés sur place. La mesurette de maïs est passée de 3 500 à 2 200 francs congolais et les sachets du sucre est désormais vendu à 15 000 ou 15 500 francs contre 18 000 francs congolais auparavant. Godin Sonsa, vendeur au marché Rompuingaba, parle de produits dont la baisse du prix est réelle.
Par rapport aux jours passés, il y a baisse des prix. Les prix du sac de riz Lion et bébé est passé de 65 000 à 59 000 francs congolais. L'huile végétale Regina de 5 litres est passée de 32 000 à 26 000 francs congolais. Les sacs de semoule sont désormais vendus entre 47 000 et 49 000 francs selon les marques, contre 65 000 francs congolais. Les paquets de cubes magiques est passé de 10 000 francs à 8 500 francs congolais.
Sur le marché de change parallèle, le dollar américain s'échange entre 2 500 et 2 600 francs congolais selon les zones. Cette baisse du taux est attribuée à l'intervention de la Banque centrale du Congo qui a absorbé une partie des masses monétaires en circulation.
La fermeture de la société textile de Kisangani depuis 3 ans inquiète la population de la province de la Tchopo. C'est ce qui a poussé le député national Théovel Lotika à adresser une question orale au ministre de l'Industrie. Tout en saluant l'engagement du gouvernement dans la relance de cette entreprise, l'élu de Kisangani plaide pour plus de moyens pour la reprise effective de ses activités afin de booster l'économie et de la province et du pays. Mais quel est vraiment l'état réel de cette entreprise Soteski? Les explications avec Jacques Mukonkole.
La société textile de Kisangani fait actuellement figure de parent pauvre. L'usine est totalement à l'arrêt. Aucun de ses 4 principaux départements n'est opérationnel, à savoir la filature, le tissage et le finissage. Seuls quelques bruits brisent le silence au département de la maintenance. Outre la vétusté de machines en place depuis 1974, année de l'inauguration de cette usine, cette dernière est confrontée à bien des défis, explique Marcel Mwambampiana, directeur intérimaire de cette société anonyme. Il s'agit entre autres du vieillissement du personnel et de la concurrence déloyale. En effet, des tissus au motif de la Soteski, piratés par des usines asiatiques, inondent le marché local à des prix dérisoires. Pendant que les machines neuves aspirent la poussière faute d'activité, 300 000 mètres de tissu écru, c'est-à-dire non encore imprimé, attendent d'être transformés en produits finis, mais on ne sait à quand, regrette le sous-directeur du département de tissage, Joseph Bauma. À cette longue attente s'ajoutent également plus de 400 tonnes de coton venues de Dingila dans le Bas-Ouélé et de Mahagi dans l'Ituri, ces 2 lieux d'approvisionnement en matières premières. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo, un lot de 96 Jeeps Toyota Land Cruiser tout-terrain, remis officiellement hier à Kinshasa aux différents services de sécurité par le gouvernement congolais à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemin Chabani. Sur ce lot, 70 véhicules sont attribués à la police nationale congolaise pour renforcer ses capacités opérationnelles et 12 remis aux administrateurs de territoire ainsi qu'aux commissariats provinciaux des provinces, notamment à Lomami et au Sankourou. Objectif, améliorer la mobilité et l'efficacité des services dans la sécurisation de la population et des biens grâce à Mzati.
Outre ces véhicules, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a remis un échantillon d'équipement en armement à la police. Il affirme que cette dotation s'inscrit dans le cadre du programme de modernisation visant à doter les services de sécurité, les provinces et les entités territoriales des moyens logistiques adaptés. Les autres bénéficiaires de ce matériel sont notamment l'Agence nationale des renseignements, la Direction générale des migrations ainsi que le Conseil national de la cyberdéfense. Jacquemain Chabani appelle ainsi à un usage responsable, exemplaire et respectueux des droits humains.
Vous voyez le nombre de véhicules, ce qui fait que ça aurait un impact significatif sur le service rendu à nos populations. Et pour nous, c'est une journée de satisfaction, mais qui ne va pas nous limiter à cela. Nous allons encore continuer davantage pour renforcer les capacités de nos services, tout en espérant que vous allez en faire bon usage. Veuillez nous encourager pour faire davantage.
Cette remise des véhicules, qui concerne aussi la province de l'Omami, donne lieu de rappeler qu'il y a quelques jours, un député provincial élu de Louilou a dénoncé la confiscation par le gouvernement provincial des véhicules de l'État alloués au territoire, affirmant que les administrateurs utilisent des vélos pour inspecter leur territoire. Des allégations rejetées par le gouverneur des provinces.
Actualité internationale.
En dehors de la RDC au Maroc, après des violences mercredi soir qui ont coûté la vie à 3 protestataires abattus par des gendarmes, la Gen Z 212 avait appelé à de nouveaux rassemblements, affirmant à rejeter toute forme de vandalisme ou de meute. Pour le 6e jour consécutif, des manifestations ont eu lieu jeudi pour réclamer une réforme du système de santé publique et du secteur de l'éducation.
L'invité.
À quelques semaines du lancement de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite, le programme élargi de vaccination intensifie ses préparatifs. Après avoir mobilisé les pédiatres, il a exhorté jeudi à Kinshasa des femmes leaders de la société civile à sensibiliser la communauté. Invitée de Radio Okapi, l'une des intervenantes de cette session, docteur Generose Matunda, a expliqué que cette rencontre visait à préparer le terrain pour l'activité vaccinale prévue en faveur des enfants âgés de 0 à 59 mois dans toutes les zones de santé de la RDC. Docteur Generose Matunda s'entretient avec Blaise Ndongala.
Bonjour, docteur Generose Matunda.
Bonjour.
À quelques semaines de la campagne de vaccination contre la polio, vous avez réuni des femmes leaders des différents secteurs de la vie. Qu'est-ce qui a été au centre de cette rencontre?
Nous sommes effectivement dans les préparatifs de la campagne polio qui s'organise à travers les pays. Et pour mieux préparer cette campagne, il est important de réunir des catégories d'acteurs qu'on trouve vraiment importants, qui nous aident dans la communauté. Et au cours de cette matinée, nous avons échangé avec les femmes de la société civile. Ils ont représenté différents ministères, différentes associations, où nous avons vraiment eu des échanges franches avec elles, dans le sens où il est important de ramener tous les enfants dans la vaccination. Comme vous le savez, la poliomyélite, c'est une maladie invalidante pour toute la vie. Il fallait faire comprendre à cette catégorie de personnes qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie, quel est le virus qui provoque cette maladie, afin que nous arrivions à l'éliminer de notre pays, qui est notre objectif principal.
Quelles sont les différentes thématiques développées au cours de cet échange?
On a parlé de la surveillance, qui nous permet de détecter la maladie dans la communauté et dans l'environnement. À côté de cela, il y a eu la vaccination des routines, parce que ça, c'est les piliers même. Les vaccins qu'on donne en routine, que ce soit chez la femme quand elle est enceinte et même l'enfant, parce qu'il y a les calendriers vaccinaux de notre pays qui doivent être suivis dès la naissance jusqu'à l'âge de 15 ans. Actuellement, c'est net rendez-vous qu'il faut répondre pour qu'un enfant soit complètement vacciné. À côté de cela, il y a les attentes que nous avons présentées. Qu'est-ce que nous attendons de cette catégorie de personnes que nous avons eu à échanger au courant de cette matinée?
Quels ont été vos critères de choix des participants à ces forums?
En fait, dans la sensibilisation telle que nous l'organisons, nous les prenons par catégorie d'acteurs. Par catégorie d'acteurs, la fois dernière, nous avons été avec les pédiatres. La cible change à sensibiliser. Et cette fois-ci, nous avons parlé aux femmes leaders. Et l'autre fois, on pourra parler avec les confessions religieuses. Donc, ça dépend. On réunit comme ça par catégorie pour mieux échanger. Et là, nous supposons qu'on a le même auditoire et le message est adapté à l'auditoire.
À marge de la campagne de vaccination qui commence bientôt, quel est le message que vous lancerez à la population chinoise en particulier et congolaise en général?
Le message à lancer, c'est la sensibilisation interpersonnelle. De la même façon qu'on nous suit à travers les médias. De la même façon, nous devons apporter ce message partout où nous passons que la poliomyélite existe. Le pays est en épidémie de poliomyélite. Ça fait des années que nous travaillons, que les gouvernements congolais, l'association avec ses partenaires, travaillent sur l'éradication de cette maladie. Nous appelons toute la population de la RDC, dans toutes les provinces, à ouvrir les portes aux équipes de vaccination. Parce que c'est une vaccination qui se passe de porte à porte. Et la cible pour cette vaccination, ce sont les enfants de 0 à 5 ans, 9 mois. Donc l'enfant qui n'a pas encore atteint 5 ans. C'est cette cible-là qui est indiquée à recevoir ces vaccins. Un autre élément très important pour cette campagne, c'est une campagne où nous allons utiliser des vaccins à la fois. C'est une co-administration. Donc l'enfant recevra ces 4 doses, ces 4 gouttes de vaccin en une fois pour une meilleure protection, pour une bonne protection. Plus on vaccine, plus on est protégé.
Docteur Généreuse Matunda, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Notre journal est à présent terminé. Merci à Dieudonné Nyangasa, Jean Ngandou, mais aussi Lievin Mbwinga pour le soutien rédactionnel. Merci à vous de nous avoir prêté l'oreille. Bon week-end à tous.